Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Richard Campeau, un des deux députés caquistes de l'île de Montréal, souhaite changer le nom de sa circonscription, Bourget, pour honorer Camille Lorrain, l'important ministre de René Lévesque, donc du Parti québécois, qui fut député de Bourget dans les années 70 et 90. Monsieur Campeau nous explique son admiration pour son prédécesseur Lorrain, mais je lui demande s'il est souverainiste et si son idée fait partie d'un grand plan de la CAQ pour bouffer le Parti québécois. Mais d'abord, il y a deux vadrouilleurs politiques avec moi, un au téléphone et une en studio.
Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important.
Bonjour Claudie Côté.
Bonjour Antoine.
Bonjour Patrick Bellerose.
Bonjour Antoine.
Correspondante parlementaire de TVA Nouvelles et correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Grosse matinée à l'Assemblée nationale, vraiment. Mais le chef du Parti québécois était absent, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il était pas. Habituellement, il répond aux questions des journalistes, même s'il n'est pas un élu. Pourquoi, Claudie?
Alors, la raison qu'on nous a donnée ce matin, via Pascal Bérubé, c'est qu'il avait une journée en famille. Donc, il a deux jeunes enfants, Paul Saint-Pierre Plamondon, et aujourd'hui, il prenait la journée pour être en famille. Parlant de famille, oui. C'est qu'hier, Paul Saint-Pierre Plamondon a exprimé des doutes sur une déclaration du premier ministre François Legault à l'effet qu'il avait écouté la pièce de théâtre « La face cachée de la lune » avec ses fils, ce qui a fait dire à Paul Saint-Pierre Plamondon pourquoi est il avec ses fils? Pourtant, il n'habite pas avec ses fils. Ses fils sont dans la vingtaine. Il a fait référence également à cette photo, peut-être que les auditeurs l'ont vue, où on voit le premier ministre sur une planche à neige qui fait du snowboard, de la planche à neige dans sa cour. Et ce sont ses fils qui ont pris la photo, là, selon le premier ministre. Pourquoi est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon faisait référence spécifiquement à cette photo-là? Ça a pu paraître confus. Là, on était dans un moment en anglais du point de presse hier, faut le dire.
Il y a beaucoup de moments en anglais maintenant au Parlement.
Oui, beaucoup de moments en anglais au Parlement. C'est un autre débat, Antoine, que ça me fera plaisir d'en parler.
Non, mais mon oncle 101 est toujours prêt, là.
Absolument.
Et jamais loin.
Oui. Faut jamais l'oublier, le cacher trop loin. Toujours est-il, Paul Saint-Pierre Plamondon a mis des doutes. Il a dit, est-ce que le premier ministre respecte les règles sanitaires? Parce qu'on n'a pas le droit de recevoir de la visite.
C'est ça.
L'affaire là-dedans, c'est que le premier ministre habite avec ses fils.
Oh oh.
Paul Saint-Pierre Plamondon faisait référence à un article du Journal de Québec où il y avait des vœux de Noël, un article de 2019, où on disait que ses fils n'habitaient pas avec lui, ou du moins un de ses deux fils n'habitait pas avec lui. 2019, c'est il y a deux ans, la situation peut changer.
Oui.
Maintenant, ses fils habitent avec lui.
Des jeunes dans la vingtaine, ça part et ça revient, crois-moi.
J'en sais quelque chose. Oui, ça m'est déjà arrivé moi aussi. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans notre vie personnelle et professionnelle. Et il s'est excusé par la suite, Paul Saint-Pierre Plamondon, mais du bout des lèvres. Alors, la question aujourd'hui qu'on a posée à Pascal Bérubé, c'est est-ce que votre chef a tourné les coins ronds?
Ah oui.
Est-ce qu'il est allé trop rapidement?
Ce qui a fait une fausse nouvelle.
Voilà. Ce qu'on nous a dit, c'est écoutez, la question se pose. Nous, on avait fait nos recherches, cette nouvelle expression à la mode, pour dire qu'on avait vérifié en 2019, c'était une source crédible. Mais le premier ministre habite bel et bien avec ses fils et ça n'a pas du tout passé pour M. Legault.
Patrick Bellerose, toi, est-ce que tu habites chez tes parents?
non, pas depuis un bout, mais en effet, j'ai eu des amis qui ont quitté la maison, qui sont retournés par la suite. On sait ce que c'est avec les études à l'université.
Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est mal pris, là. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui.
Ben, c'est ce qu'on a l'impression, c'est ce qu'on comprend. Monsieur Saint-Pierre Plamondon avait dit qu'il serait là à tous les jours pour les points de presse. C'est la première fois qu'il s'absente. Et après ce commentaire-là, on aura l'occasion de lui poser la question. Par contre, aujourd'hui, j'étais avec François Legault, le premier ministre, dans un point de presse avant la période des questions, comme il fait régulièrement.
Oui.
Et je peux te dire qu'on sentait que ça l'avait piqué au vif, que ça l'avait atteint personnellement. On sait comment les questions familiales sont toujours délicates avec tout le monde, mais avec les politiciens, entre autres.
Ah oui.
Et ce que M. Legault a dit, écoutez, il y a des mots quand même assez durs, assez directs, en disant, parce que M. Saint-Pierre Plamondon dit, ce sont des mensonges, premièrement. Donc, il a accusé de mentir, carrément. Et il a dit, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que la politique, c'est déjà assez dur. Pourquoi est-ce qu'on s'attaque aux enfants? Est-ce qu'on ne devrait pas laisser les enfants en dehors de ça? Et il a dit qu'il avait parlé à son épouse, à ses enfants, et qu'ils étaient choqués de voir que on les entraînait comme ça dans l'arène politique. Donc, M. Legault a mis l'opprobre sur l'épaule de M. Saint-Plamondon, qui devra peut-être encore s'expliquer quand on le reverra au Parlement.
On va d'ailleurs écouter l'intervention de François Legault.
Je veux juste dire un mot ce matin sur les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ hier. J'ai écouté l'entrevue, son point de presse. Écoute, là, il dit qu'on donne des contrats pour faire éventuellement des images dans ma cour chez nous. On donne pas des contrats, là. C'est Manu que vous connaissez, puis... la photo à laquelle il fait référence, là, mes gars jouaient dans le cours et puis je suis allé avec eux autres et puis c'est un de mes gars qui a pris la photo. Donc, quand il dit qu'on donne des contrats, c'est un mensonge. Ensuite, quand il dit que mes enfants habitent pas chez moi, c'est un mensonge. Mes enfants habitent chez moi. Mais ce qui me choque là-dessus et puis ce que je voudrais dire... à M. Saint-Pierre Plamondon, au chef du PQ, c'est que c'est assez dur, me semble, la politique, qu'on devrait laisser les enfants en dehors de ça. Hier, j'ai parlé avec mes enfants, mon épouse, qui était choquée que ces informations-là soient publiques. Je comprends pas, M. Saint-Pierre Plamondon, là, donc... des mensonges, puis en plus, parler de famille, là, parler des enfants. Il me semble qu'on ne devrait pas voir ça en politique. Là. On devrait respecter la famille des politiciens.
Donc, c'était François Legault ce matin, jeudi, juste avant d'aller à la période de questions. Maintenant, Patrick, tu me rappelais un autre épisode où la famille a été mêlée à la politique. C'est lorsque Elsie Lefebvre avait parlé du bénévolat de l'épouse de Jean Charest, Michèle Dionne. Et Jean Charest, il avait répondu à la question en chambre, il s'était rassis, puis on l'avait entendu dire « crise de chienne ». Ça, il était vraiment pas content. Ça fait penser à son mentor, hein, Mulroney, qui avait quasiment menacé de mort des journalistes qui avaient parlé de Caroline Mulroney dans une publication qui se voulait satirique.
Oui, tout à fait. C'est des propos qui dépassaient aussi l'entendement là, concernant M. Mulroney. Là, je pense qu'on parlait d'incitation au viol, si je me souviens bien, par rapport
C'était épouvantable. Oui, effectivement.
C'était horrible.
Touche pas à la famille.
Non.
Québec particulièrement. Il y a d'autres juridictions où ça se fait. Là.
Oui.
On peut patiner sur la famille, insulter, on le voit aux États-Unis, mais au Québec...
C'est bon.
Mais ce qui est surtout étonnant, c'est que le Parti québécois a sorti cette information-là, qui finalement est fausse, comme ça, dans un point de presse, sans avoir d'informations vraiment validées, sans vouloir en faire une sortie précisément. On a l'impression que c'est une erreur un peu de débutant là, de M. Saint-Pamondon qui a été élu l'automne dernier.
Effectivement. Maintenant, Patrick, on continue avec toi. Est-ce qu'il va y avoir des barrages routiers pendant la semaine de relâche pour limiter les variants qui ont l'air de vouloir se promener chez nous?
Exactement. On sait que c'est la grande crainte du gouvernement, ces variants qui sont très contagieux et qui pourraient faire repartir de plus belle la pandémie. Donc oui, les barrages sont envisagés à l'intérieur du Québec, on le savait déjà. Il y a aussi des barrages envisagés pour éviter les visiteurs de l'Ontario. Donc, éviter que des gens viennent, par exemple, dans les chalets, viennent faire du ski.
Ouais.
Mais ce qui est encore plus intéressant et ce qui va décevoir certainement les gens de la région de Québec, je veux dire Appalaches, c'est que les zones rouges qui pourraient basculer en zone orange bientôt parce que la situation s'améliore grandement, pourraient demeurer dans le rouge jusqu'à la fin de la semaine de relâche. C'est M. Legault qui l'a dit tantôt dans le même point de presse. Il dit, écoutez, on regarde tout ça, on regarde la possibilité d'étendre le couvre-feu dans toutes les zones rouges jusqu'à la fin de la semaine de relâche et de garder ces zones-là au palier rouge pour justement éviter que les gens aillent dans des restaurants ou se promènent et propagent le virus et surtout, comme on disait, le variant qui est encore plus contagieux.
Je trouve que c'est une bonne idée parce que quand même, on a annoncé là, une sorte de petit déconfinement juste au moment où on commençait à parler des variants. Puis les variants, comme l'a dit le premier ministre aujourd'hui, hein, ça fait peur, hein, Claudie?
C'est inquiétant, les variants, parce qu'il y a ceux qu'on détecte et surtout ceux qu'on ne détecte pas. Et c'est là la principale préoccupation. En point de presse, les oppositions ce matin là, se questionnaient fortement sur la capacité du Québec à détecter les variants. Là, il y a le séquençage et le criblage. Je ne veux pas tomber dans des termes qui sont trop techniques, mais on doit tester d'abord les tests positifs. Là, lorsque vous êtes testé à la COVID et que vous êtes positif, il y a un pourcentage qui est testé pour savoir s'il y a du variant. Et ça prend beaucoup de temps. C'est ce qu'on a appris. Les partis d'opposition ce matin nous disaient, écoutez, les cas en Abitibi, là, il y en a deux en ce moment qui ont été détectés en Abitibi. On le sait depuis hier, mais ce sont des cas qui remontent il y a un mois déjà. Oh. Donc, pour ces deux...
On a toujours l'air en retard d'une bataille, hein? Puis c'est ça que le Parti québécois disait ce matin. Je pense que Joël Arsenault le disait de façon assez éloquente, là. On est comme toujours en retard d'une bataille sur les masques, sur toutes sortes de sujets. Et encore là, c'est l'impression qu'on a.
Oui, toujours en retard. Il y a aussi, également le Parti libéral qui disait on est deux trains en retard. C'est ce que Marie-Montpetit a dit. Manon Massé a dit, écoutez, c'était la même chose avec les voyages. Oui. Legault préférait attendre après Trudeau. Et finalement, regarder la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Donc, il y a les cas en Abitibi, il y a ces cas présumés également à Montréal. Ça, c'est ceux qu'on pense connaître. Alors, il y en a combien d'autres qu'on ne détecte pas en ce moment? Et les variants inquiètent. Et il faut parler des variants lorsqu'on parle de la semaine de relâche et de la possibilité aussi de prolonger les mesures en zone rouge. Parce que l'idée, c'est est-ce qu'en ce moment, il y a des variants beaucoup plus contagieux qui circulent et les gens vont se déplacer, se rencontrer. Si on ouvre à certaines mesures, là, si on assouplit certaines mesures, est-ce qu'on ne va pas provoquer une flambée de ces nouveaux variants de COVID-19, se retrouver dans une situation comme on a vécu après la période des fêtes, beaucoup de pression sur le système hospitalier. Mm-hmm. Donc, le gouvernement jongle avec ça en ce moment, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Et c'est probablement pour ça là, qu'on va nous annoncer que les mesures vont être prolongées jusqu'à après la semaine de relâche, peut-être. Pourquoi le premier ministre est allé de cette déclaration? C'est qu'on demandait s'il allait avoir des barrages routiers au Québec. Mm-hmm. Il dit non, moi, je préfère garder les bulles familiales, le couvre-feu et les mesures en zone rouge. C'est plus efficace. Donc, il a un peu avoué là, qu'il allait prolonger les mesures en zone rouge. Pendant ce temps-là, il y a de la pression qui se fait pour détecter de plus en plus les variants. C'est une course contre la montre.
Oui.
Vraiment, en Ontario, c'est un problème. Et parler à n'importe qui dans le réseau de la santé en ce moment, ils vont vous dire on se prépare pour l'arrivée de ces variants-là. S'il y a une troisième vague, là, ce sera à cause
mais oui, c'est-tu décourageant? On parle d'une troisième vague. Patrick, donc, un mot là-dessus sur les barrages, sur les variants? Tu étais là ce matin à la conférence de presse de François Legault.
Oui, comme Claudie disait sur les variants, c'est pas une question de savoir est-ce qu'on va être frappé par une flambée causée par le variant, et plutôt savoir quand. Tantôt, M. Legault a dit, c'est sûr et certain que d'ici quelques semaines, on va être frappé par ce variant-là. Donc, écoutez, l'espoir qu'on a, c'est toujours de vacciner. Faut-il que les vaccins arrivent ici, au Québec.
Autre nouvelle maintenant, je dirais une nouvelle à laquelle on s'habitue, c'est-à-dire encore des mises à pied chez Bombardier. Mais là, c'est spécial, puis le premier ministre l'a vraiment commenté ce matin, Patrick.
Oui, malheureusement, il fallait s'y attendre quand même. Il y a la situation de Bombardier là, qui est en redressement avec l'arrivée de M. Martel. Mais évidemment, la pandémie fait en sorte que les carnets de commandes se réduisent, autant dans le secteur de l'aviation commercial que pour les jets d'affaires. Aujourd'hui, c'est Learjet. On met fin au programme Learjet. Et je crois que c'est...
1600 emplois, hein, c'est ça?
Oui, exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que M. Legault a quand même ouvert la porte, encore une fois, à venir en aide à Bombardier, à injecter de l'argent. Évidemment, on se souvient, dans l'opposition, M. Legault avait beaucoup tapé sur la
façon... Il était très critique, hein?
sur la façon dont Grand Couillard était venu en aide au programme de C-Series. On le sait, 1,3 milliard qui était accordé. Finalement, la C-Series a été vendue pour $1 à Airbus. Donc, cette fois-ci, M. Legault dit, écoutez, s'il faut, on viendra en aide à Bombardier, division aéronautique, évidemment. Mais ce sera avec des garanties financières et des planchers d'emploi. Il a déjà parlé avec Pierre Beaudoin, le président du conseil d'administration à ce sujet-là. Il a dit, écoutez, si on vient en mal, il y aura des garanties. Par contre, dans ce que M. Legault a dit aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement de demande d'aide qui a été faite à court terme. C'est plutôt dont une promesse d'être là au besoin. Et M. Legault a aussi souligné que la vente de la division ferroviaire de Bombardier à Alstom va apporter d'ici peu quand même des entrées d'argent importantes. Donc, on peut espérer que ça aide la division aéronautique là, à se remettre sur pied et à poursuivre ses activités.
Très bien. Ben merci beaucoup, Claudie Côté.
Merci, toujours un plaisir.
Correspondante parlementaire de TVA Nouvelles ici à l'Assemblée nationale. Et merci beaucoup, Patrick Bellerose.
Merci, à la prochaine.
Correspondant aussi parlementaire ici à l'Assemblée nationale, mais pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
On a appris récemment que le député de Bourget, Richard Campeau, de la Coalition Avenir Québec, veut changer le nom de son comté. Il est au bout du fil. Bonjour, M. Campeau.
Bonjour, M. Robitaille.
Je m'interroge, pourquoi vous voulez changer le nom de votre comté? Ignace Bourget, vous voulez qu'il disparaisse du paysage?
Oh non, je pense qu'il disparaîtra pas. Il est représenté une trentaine de fois au Québec. Alors, il va être représenté 29 fois.
OK.
C'est pas une grosse différence. Il faut remarquer que même l'archidiocèse de Montréal n'était pas contre l'idée. Pour ce qui est de Camille Lorrain, ben, c'est pas nouveau comme idée. Hein.
Ouais.
J'ai commencé à entendre parler de ça et à en parler juste après l'élection d'octobre 2018. Je pense que c'était en novembre 2018.
D'où vient l'idée? Est-ce que ça vient de vous, l'idée d'adopter le nom de Camille Lorrain pour changer le nom du comté de Bourget?
Pas initialement. C'est quelqu'un qui m'en avait parlé, mais ensuite, c'est devenu une idée que j'ai fait avancer moi-même, oui. Mais pour les gens qui nous écoutent, M. Lorrain, c'est pas par hasard, on ne va pas lui nommer un comté pour nommer un comté. C'est ça, c'était son comté.
Ben oui.
Il était là, présent, de temps en temps élu, de temps en temps pas élu, de temps en temps il s'est retiré, il est revenu, mais au total, sur quatre mandats, et entre 1970 et 1998. Alors, pour lui, c'est son comté, si on veut, et c'est peut-être drôle, je disais récemment à quelqu'un, j'ai même pas voté pour la séparation. Et ça m'empêche pas d'être d'abord Québécois avant d'être Canadien. Et pour moi, la langue française est quelque chose d'important. Alors, reconnaître le père de la langue française, ben, il me semble que ça va de soi. Et
donc, ni en 80, ni en 95, vous avez voté pour le oui?
En effet, c'est ça.
OK. Mais c'est ça, la loi 101, donc Camille Lorrain est considéré comme le père, là, vous trouvez que c'est une loi québécoise importante?
Je pense que si ce n'était pas de ça, notre français qu'on dit mis à mal, en particulier à Montréal, ne serait pas en aussi bon état. Et je pense qu'il est bon de reconnaître ça. Pour moi, parler français, c'est important. Puis tant qu'à le faire bien parler, c'est encore mieux.
Mais lui disait que la loi 101, c'était insuffisant, que la souveraineté du Québec, c'était la seule mesure pour préserver le français, pour y donner une existence pérenne, comme on dit maintenant.
Oui, mais on voit que les choses ont évolué un peu différemment avec le temps. Une majorité de Québécois semble, un peu comme moi, considérer qu'on peut être nationaliste, tenir à être une province distincte, mais qu'on reste à l'intérieur du Canada. Alors, je pense qu'à l'intérieur de ça, il y a moyen de faire véhiculer le fait français. Puis, très franchement, pour avoir eu la chance de mon travail de parcourir beaucoup d'endroits, c'est vrai que nous sommes distincts.
Mm-hmm.
On est vraiment un petit peu différents sur bien des petites choses, mais nous sommes différents.
Mm-hmm. Et sur le français à Montréal, est-ce que vous sentez dans le comté qui s'appelle le comté de Bourget pour l'instant, vous sentez que le français est en danger?
Pas vraiment, non, pas là. Dans l'est de Montréal, on ne ressent pas ça. On voit plus de diversité dans l'est de Montréal. Oui, on le remarque. De toute façon, personnellement, mes enfants sont d'origine guatémaltèque. La diversité, c'est une chose que je connais très bien. Mais on le ressent. Mais même tous ces gens-là vont parler très bien français. Alors, ce n'est pas visible dans l'est de Montréal ou à peine. C'est vraiment dans l'Ouest. Et pour avoir été professeur adjoint à McGill, il y a bien des gens qui me disaient qu'on peut très bien vivre à Montréal, en particulier dans l'Ouest et dans le centre, et ne le faire qu'en anglais. Et ça, c'est plate à entendre. Alors, on va réagir par rapport à ça, avec, comme vous le savez, avec le ministre Simon-Jeanin Barrette qui va venir bientôt parler de la langue française.
Sur quoi il faudrait agir de toute urgence?
Je ne sais pas trop. Parce que je ne veux pas le couper, comme on dit. Là. Couper. Peut-être M. Camille Lorrain ne serait pas très fier de moi. Je ne veux pas le...
lui voler la primeur.
Dire d'avance, lui voler son punch. Ça va vraiment pas bien, mon affaire sur le français.
Oui, voler la primeur, ça serait bon.
Je ne veux pas lui voler son impact. Mais quand je vois des firmes qui émettent qui vont faire des annonces et qui ne se gênent pas de le faire en anglais, rajouter un tas de mots anglais dans leur discours comme si ça fait chic, ben, je pense qu'à la longue, ça use la langue, ce genre de choses-là. On prend une petite liberté pour un mot ici, pour un mot là, puis à la fin, on oublie le mot français.
Camille Lorrain, l'avez-vous déjà rencontré?
Non, j'ai jamais rencontré. Mais j'ai eu l'occasion de parler avec son frère la semaine passée pour évidemment lui demander s'il était d'accord avec l'idée.
Oui.
Et c'était très touchant, premièrement, de le faire. C'était très agréable et il n'y a pas eu d'hésitation. Mais non, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Camille Lorrain comme telle.
Comment la famille accueille ce projet-là de changer le nom du comté de Bourget pour Camille Lorrain?
Je ne voudrais pas lui mettre des mots dans la bouche, mais je dirais qu'ils prennent ça comme un cadeau. Mais étant donné l'âge de M. Lorrain, sa famille immédiate, on a parlé à son frère, Pierre Lorrain, avec qui il y a une bonne différence d'âge.
Mm-hmm.
Alors, l'accueil a été immédiat, et puis, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de si et de peut-être. Il était déjà en faveur. Il trouvait que c'était une belle reconnaissance. C'était une simple belle discussion, un peu émotive. Voilà.
Quand on parle de Camille Lorrain, on parle surtout de la loi 101. Mais dans le comté de Bourget, est-ce qu'elle a laissé des traces importantes? Des projets qui ont vu le jour ou des gestes qui, encore aujourd'hui, là, ont des échos?
Bien là, ça va vous surprendre, mais je vais vous parler de son aspect, son travail de psychiatre.
Oui.
Quand on regarde l'histoire de M. Lorrain, le mot qui me venait à l'esprit, c'est son implication, de façon générale. Il s'est impliqué de toutes sortes de choses quand il était étudiant. Il s'est impliqué en psychiatrie, il s'est impliqué en politique, et fortement. Alors, en psychiatrie, il a proposé des traitements novateurs que, en tant qu'ingénieur, je connais pas bien, je vous avoue, là, mais mm-hmm. ce que je comprends, c'est qu'il y avait des traitements novateurs. Et ça s'est appelé l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, ça s'est appelé l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine, maintenant c'est l'Institut de santé mentale. Il reste que c'est un endroit où ces traitements-là sont utilisés actuellement. Il a contribué à l'évolution des divers traitements qui existent. Et c'est dans le comté, ça. C'est dans mon comté de Bourget. Mm-hmm.
On dit que votre initiative de changer le nom de la circonscription, ça fait partie d'un grand projet là, pour la coalition Avenir Québec de bouffer le Parti québécois. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ça? Je pense au commentateur là, Bernard Drainville qui a dit ça à la radio récemment sur d'autres ondes.
Je l'ai entendu ça sur d'autres ondes, comme vous le dites. Il a droit à son opinion. Mettons que l'aspect nationaliste du parti de la coalition Avenir Québec était là. Il est toujours là. Et c'est une façon de le démontrer. S'ils veulent le présenter d'une façon différente, libre à lui, je comprends que, vu son passé, il puisse le voir comme ça. Mais je vous rappelle que moi, j'ai toujours voulu, en novembre 2018, commencer à reconnaître son nom dans le comté pour l'individu. Alors, pour ce qui est de ça seulement, là, c'est une suite logique, simplement. Et c'est reconnaître un individu qui a beaucoup apporté au Québec. Ça s'arrête là.
Puis si ça ne fonctionne pas, parce que c'est pas évident de changer le nom d'une circonscription, avez-vous d'autres idées, d'autres pistes pour... donc d'autres idées, oui, c'est ça, pour reconnaître sa contribution au comté puis au Québec?
J'ai confiance que ça va marcher. Et aller par pétition, c'est se donner un pouvoir de pression aussi. Mm-hmm. Il y a différentes façons de faire ça, par le directeur, via le directeur général des élections ou par projet de loi. Alors, dans un cas comme dans l'autre, je pense que ça va fonctionner. On n'a pas arrêté vraiment comment on était pour procéder par la suite. Pour le moment, on va vers reconnaître l'individu, le faire via une pétition, présenter cette pétition-là dans les premiers jours de mars, vu que l'anniversaire du décès de M. Lorrain est le 11 mars et que ça arrive au bon moment. On dit souvent que ça n'arrive pas par hasard, là. On aurait pu faire ça au mois de juillet aussi, là. Mais on voudrait quand même le fait que ça ait un impact dans l'actualité. Alors, ça paraît plus, évidemment, lors de l'anniversaire de son décès.
Très bien. Merci beaucoup, Richard Campeau.
Ben, ça me reste déjà de vous parler.
Ben, moi aussi.
Bonne journée.
Député de la coalition Avenir Québec de Bourget. En tout cas, ça s'appelle Bourget pour l'instant. Et c'est tout pour La Haut sur la colline en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.